En attendant, le congrès HLM, en partenariat avec Procivis sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et oui, une émission en préambule de ce que l'on va vivre au congrès de l'Union sociale pour l'habitat, le congrès qui a lieu cette année à Bordeaux. Alors l'idée, les amis, c'est très simple, c'est qu'on va parler de logement social bien sûr, puisqu'on va parler de cet nécessaire impératif pour les Français d'être logés dignement et décemment. Mais pas que, je propose aussi qu'on parle du logement en général et de l'importance qu'a le logement, notamment sur le phénomène d'inclusion sociale dans les métropoles, les villes moyennes aussi. Pour en parler avec moi, nous avons construit cette émission en partenariat avec le réseau Procivis, et en l'occurrence son président est avec nous sur le plateau, Yannick Borde, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Ça va très très bien dans cette période riche pour la question du logement.
Alors heureux de revenir physiquement sur des lieux de rencontre.
Bah d'abord je pense qu'on est tous heureux.
Un congrès depuis deux ans quoi.
Voilà, il n'y a pas eu de congrès depuis deux ans. Je pense que dans nos instances diverses, on a beaucoup travaillé à distance et en visio. Et je pense que la première grande satisfaction, c'est pouvoir effectivement se réunir et retravailler autour d'une table tous ensemble. Ça a quand même, à mon avis, une efficacité un peu plus forte que ce qu'on a pu faire depuis 18 mois.
Alors, on couvre le congrès ici, à Radio Immo, chez vous, puisque vous nous faites le plaisir d'accueillir notre plateau pendant le congrès. Je rappelle, 28, 29 et 30 septembre à Bordeaux. Alors, je vais rappeler quelques chiffres sur le réseau Procivis parce que je suis pas sûr que tout le monde ait compris l'importance du maillage territorial de votre réseau. C'est 3000 collaborateurs, c'est 8000 logements neufs vendus et construits par an, ce qui vous place parmi les premiers promoteurs français. C'est 700 000 lots gérés en qualité d'administrateur de biens, c'est 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et c'est surtout la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM détenant plus de 55 000 logements. Le réseau Procivis est présent sur tout le territoire métropolitain, dans les métropoles, les grandes villes, les villes moyennes, bravo, et les secteurs ruraux que vous n'avez pas abandonnés. S'il y en a qu'un qui doit rester, ce sera Procivis. Vous accompagnez les politiques publiques, nécessaires forcément pour la mise en place, effectivement, d'une politique territoriale au niveau du logement. Et je sais que le logement, ce qui vous concerne, parce que je rappelle aussi que vous êtes un élu de la République, vous êtes maire d'une ville, vous êtes maire de Saint-Barthélemy. Et donc, vous connaissez bien les enjeux qui sont aujourd'hui dévolus, à tort ou à raison, aux maires, et notamment les maires de villes moyennes. Voilà. Alors, je rappelle aussi que le réseau Procivis est une des composantes du monde HLM et qui est regroupé au sein de l'Union sociale pour l'habitat. C'est bien ça?
C'est parfaitement ça. C'est-à-dire que c'est un réseau peut-être un peu atypique, mais en tout cas, nous sommes le seul acteur du logement présent sur l'ensemble des segments de la chaîne du logement. Vous l'avez évoqué, Sylvain, le logement social, la promotion immobilière concurrentielle, je le qualifiais comme ça, le secteur de l'administration de biens. Et nous, notre ADN, c'est les territoires, la proximité, le président que je suis est aussi dirigeant d'un groupe du réseau. Et donc, ce sont mes 50 collègues directeurs généraux et leurs présidents qui, sur leur territoire, décident des actions à conduire, dans le cadre d'une politique qu'on a définie tous ensemble. Mais en tout cas, notre vision, nous, c'est de dire que la politique du logement, elle doit coller au plus près des territoires, que les problèmes, ils existent, ou les questions, si ce n'est des problèmes, ils existent absolument partout, qui peuvent difficilement être couverts par une politique nationale unique, et qu'il faut être en capacité à s'adapter. Et puis la deuxième partie de l'ADN, faut remonter à l'origine de nos sociétés qui date du début du XXe siècle, c'est l'accession sociale, le fait de faire en sorte que, quel que soit la problématique logement, quelle que soit la qualité financière, en tout cas les capacités financières plutôt de nos clients, on doit être capable de leur apporter une solution sur la question de leur logement.
Alors je vous propose, tout à l'heure on aura le plaisir, il est en duplex, il est au Palais Bourbon, Michael Nogal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, président du CNH, vice-président des affaires économiques de l'Assemblée nationale, sera avec nous dans quelques minutes. Je vous propose qu'en cours de débat, on l'inclut dans notre conversation, parce que ce que je vous propose comme thème, à l'aube d'une campagne présidentielle sans commune mesure, c'est qu'on parle du logement des Français. Voilà. Enfin, va-t-on, peut-être, l'espoir fait vivre, parler du logement des Français. En tout cas, on va solliciter, et vous sollicitez aujourd'hui les élus et ceux qui vont se présenter à la présidentielle sur cette politique du logement. Mais j'aimerais qu'on parle d'abord, dans un premier temps, du congrès en lui-même. Alors, On va dire l'inspiration du thème du congrès, construire. Il faut construire, d'ailleurs, les chiffres de la construction sont quand même... On ne peut pas dire que ce soit vraiment la fête au bar, hein, d'accord, avec certaines régions avec moins de, plus, des baisses de 47% de moins de permis de construire délivrés. C'est quasiment sans précédent. Je crois qu'on a rarement aussi peu construit cette année, bien évidemment. Avec le confinement, bien sûr, hein, faut tenir compte de cela. Aussi, le principe d'inclusion et de penser l'avenir, qui sont un peu l'orientation de ce congrès. Comment vous le voyez-vous, le congrès HLM, cette année, à 6 mois des présidentielles?
Alors, ce congrès, il a plusieurs... Il est à une date clé, d'abord, parce que effectivement, il ne s'est pas tenu depuis 2 ans. Donc, on a besoin de refaire un bilan... public un peu de la situation du logement de façon assez ferme et assez forte. Et puis il est effectivement à l'aube d'une campagne présidentielle. Alors si on prend les 3 thèmes du logement, en fin de compte on est au cœur de l'actualité et de ce qui doit se préparer. Construire, le président de la République avait annoncé la volonté d'avoir un choc de l'offre. On n'y est pas. Très clairement.
Force nous est de constater qu'il n'a jamais eu lieu.
Il n'a jamais eu lieu. Je pense qu'il y a eu des mesures très tôt dans ce mandat sur la question du logement qui ont perturbé, questionné les acteurs du logement, inquiété, et donc on est arrivé dans ce moment, renforcé certes par la crise sanitaire, mais sur la partie production nouvelle, la crise sanitaire, elle a assez peu d'impact finalement. Moi je crois que c'est pas la crise sanitaire qui a gêné la production. Sur la question de l'inclusion, on peut la résumer dans le cadre de l'approche qui est la nôtre, de se dire aujourd'hui on a tout un tas de sujets pour tout un tas de populations. On a la question du logement des jeunes, on a la question du logement des personnes âgées, le rapport qu'a produit Luc Broussy par exemple est essentiel aujourd'hui dans nos raisonnements. On voit bien aujourd'hui la mixité qui pose des questions, enfin il y a tout un ensemble de sujets qui méritent d'être opposés. Moi j'avais indiqué par exemple, je crois que c'était il y a 3 ans qu'on a acheté qu'on avait un peu perdu de vue la question du parcours résidentiel et qu'il fallait le remettre peut-être au cœur, où en fonction de son avancée dans l'âge, en fonction de sa situation personnelle, on pouvait avoir un certain nombre d'évolutions dans ses besoins de logement. Et puis le troisième thème, c'est penser l'avenir. Alors on peut ramener ça à ce que vient d'installer Madame la Ministre sur la commission Habiter la France de demain.
Absolument.
Auquel j'ai participé sur la première séance d'installation.
Absolument. Ben, nous y sommes demain, voilà.
Voilà, donc l'avenir, c'est qu'est-ce que les Français attendent? Est-ce que cette période crise sanitaire, elle va infléchir, est-ce que c'est structurel, conjoncturel, comment ça va se passer par rapport aux besoins de logement? On voit poindre aujourd'hui tout un tas de rapports, où il y en a un très récent notamment qui nous dit qu'il faut améliorer la qualité des logements. Derrière ça, il y a toutes les normes environnementales qui s'accumulent. Les DPE nouveaux qui arrivent, qui peuvent faire sortir du marché un certain nombre de biens. On voit bien qu'on est dans un moment où écrire l'équation logement, ça va être quand même un peu compliqué. Avec une vision aussi qui est la nôtre, qui est de dire est-ce qu'on n'est pas non plus à ce moment-là au taquet, excusez-moi du terme, de ce que chacun est capable de mettre dans sa charge logement, qui devient très élevée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Voilà, donc il y a des questions essentielles qui se posent. C'est vrai qu'on espère que les principaux candidats, ou tous les candidats, mais en tout cas les principaux au moins à l'élection présidentielle, se saisissent de cette question-là, qui est souvent quand même très absente des campagnes présidentielles. La dernière où il y avait eu un slogan autour du logement, ça date de 2006, hein, où un candidat avait déclaré tous propriétaires. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne orientation, mais en tout cas, c'était un marqueur malgré tout. En 2017, la question du logement a été totalement absente de la campagne présidentielle. Donc faisons en sorte que cette année, tous ensemble, on arrive à la remettre au milieu du terrain.
Alors pour en parler, justement, il est en duplex avec nous, il est au Palais Bourbon, il était en session, il nous fait le plaisir d'être sur le plateau, il est en duplex avec nous. Est-ce que Michael Nogal, vous êtes avec nous en direct?
Je suis là.
Bonjour, vous allez bien?
Bonjour Sylvain, ça va et vous?
Alors Michael Nogal, vous êtes le président du Conseil national de l'Habitat, vous êtes député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, vice-président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Merci d'être avec nous. Alors vous et moi, on se connaît bien Michael. Construire, inclure et penser l'avenir, ce sont les thèmes de cette année du congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Autant vous dire que c'est un programme ambitieux, bien évidemment, parce qu'il fait écho à une problématique qui est celui-ci. 5 millions de Français sont en attente d'un logement décent, digne, avec plus de 2,5 millions de personnes inscrites sur des listes pour avoir un logement social. C'est un vrai sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire?
D'abord, que ça nécessite un travail qui est permanent, une mobilisation à la fois des acteurs nationaux et des acteurs locaux. La thématique du congrès de l'USH que vous avez rappelé, j'aurais le plaisir de, par l'invitation de l'USH, de participer à ce congrès. Et par rapport aux dernières minutes que j'ai pu entendre de Yannick, que je salue, c'est vrai que on avait au départ, vous vous rappelez peut-être de la loi Elan en 2018, voulu créer un choc d'offres. Ce choc d'offres, il n'est pas intervenu, mais il n'est pas intervenu pour plusieurs raisons. Et sans vouloir pointer les responsabilités, que ce soit au niveau national ou local, on réfléchit aujourd'hui à, de manière transpartisane, trouver les meilleures solutions. Et c'est l'objet de la commission Rebsamen qui s'est réunie en réunion plénière tout à l'heure, qui fera des premières propositions demain soir, pour justement accélérer et essayer de trouver les meilleurs outils à chaque fois pour adapter au niveau des territoires les bonnes réponses et les bonnes solutions. Parce qu'on ne répond pas aux besoins de logement des Français, qu'ils habitent à Paris, à Toulouse, en Bretagne, en Corse, dans le Gers ou ailleurs. Et que donc, très humblement, très modestement, moi, ma mission en tant que parlementaire aujourd'hui et président du Conseil national de l'Habitat, c'est de se dire, essayer de se mettre à la place de nos concitoyens dans les différentes situations qu'ils peuvent connaître. Que ce soit un étudiant qui de province, comme je l'ai été, qui monte à Paris pour faire ses études et trouver son premier emploi, que ce soit une personne âgée qui est en perte de mobilité, qui a besoin d'adapter son logement, que ce soit une famille qui s'agrandit ou une famille qui divorce et donc besoin pour les deux parents de se reloger. Tout plein de situations que l'on peut connaître tout au long de notre vie et qui nécessitent des solutions adaptées et pas des solutions globales qui ne traitent pas des particularités de chaque territoire, de la tension dans chaque territoire. Il n'y a pas la même tension sur le marché en Mayenne que à Toulouse ou à Paris. Et donc, on a fait l'encadrement des loyers, on a essayé de travailler sur la transformation de bureaux en logements, sur évidemment un effort qui doit se poursuivre sur la construction de logements sociaux. Et aujourd'hui, je ne veux pas opposer logement social, logement intermédiaire et logement libre, puisque aujourd'hui, dans la quasi-totalité des programmes, on produit de la mixité avec différents types de logements. Donc, il faut penser global. Et à agir local, c'est-à-dire s'intéresser aux problématiques des territoires. Et c'est le sens, sans vouloir trahir les premières et présenter les premières mesures de la commission Rebsamen, mais l'idée derrière et ce qui fait consensus aujourd'hui parmi l'ensemble des membres de cette commission, et je crois parmi l'ensemble des acteurs, c'est le sujet de la contractualisation. Et comment, sur la construction de logements sociaux, sur l'adaptation des logements, sur la rénovation énergétique, comment on fait en sorte que de mieux faire travailler l'État, qui donne la ligne, et les collectivités, les acteurs locaux, qui ont la meilleure connaissance du terrain. Je pense notamment à l'expérimentation du dispositif Pinel que l'on fait en Bretagne, qui n'est plus une expérimentation telle que la cartographie nationale le décide, mais bien l'ensemble des acteurs, des élus locaux qui décident à budget constant de savoir où doit être concentré l'effort de construction et où on doit considérer que ces logements avec des plafonds de loyers de ressources sont construits. Là aussi, déterminer au niveau national quelles sont les zones tendues et les zones détendues, je pense que c'est pas la bonne chose. Et ça l'est pas non plus pour l'encadrement des loyers, qui est un sujet qui revient notamment à l'occasion de la campagne des présidentielles. C'est au territoire de déterminer s'il est pertinent ou pas de faire cet encadrement des loyers, avec bien sûr une validation par la ministre du Logement.
Merci Mickaël Nogal. Une réaction sur ce qui vient d'être dit?
Alors d'abord, Yannick Borde. Bonjour à Mickaël Nogal. Mais tout d'abord, moi je suis satisfait d'entendre le mot de décentralisation au plus près des territoires. C'est-à-dire que pendant très longtemps, effectivement, nous on est un acteur des territoires. Donc la politique du logement, quand elle fixe des caps souvent défini ou appréhendé à partir d'un contexte, notamment Île-de-France, qui existe, hein, qui est réel, mais qui est quand même très spécifique, et qu'on veut l'appliquer un peu partout de la même façon, eh bien on voit bien que ça marche pas. Donc si déjà des travaux qui existent en ce moment sur la commission Rebsamen on ressort sur la capacité à décentraliser les pouvoirs de décision sur ces questions-là. Il a été fait écho, par exemple, de l'expérimentation sur le Pinel en Bretagne. Si on arrive à dupliquer et à démultiplier ce type d'action sur le territoire, je pense qu'on est sur la bonne pente. Ce qui est important quand même, et c'est peut-être ce qui a manqué un peu sur ce mandat présidentiel, c'est que les acteurs que nous sommes, que ce soit les acteurs du monde du logement social, ou les acteurs de l'accession à la propriété ou les acteurs de la promotion privée, nous, on a envie de construire. Je dirais, notre métier, c'est de construire. Alors, même si je sais que parfois, on dit qu'il y a quelques dos du dormant, comme on les appelle, notamment dans le secteur du logement HLM, mais c'est à la marge. Et en fin de compte, tous les acteurs du logement, ils n'ont qu'une seule ambition, c'est de réaliser leur objet social, continuer d'investir, continuer de se développer et de réaliser. Et je pense qu'il y a un sujet peut-être qu'il va falloir restaurer, c'est la confiance entre la sphère publique. La sphère publique et les acteurs du territoire. Et on a à de multiples reprises quand même rencontré un certain nombre de freins. Alors ils sont pas tous dus à la position de l'État. Il y a aussi la position des collectivités locales sur le territoire, l'implication des maires par rapport à l'acte de construire, la résistance qu'il peut y avoir aussi parfois de la part de certaines populations par rapport à l'évolution de l'urbanisation de leur territoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que cette confiance-là, elle soit restaurée. C'est quand même le logement avec l'emploi et la santé, les trois sujets majeurs pour n'importe lequel d'entre nous.
Yannick Borde, en plus, vous avez la particularité, vous, de le vivre en tant que maire, maire d'une petite ville.
Je ne sais pas si c'est un plus, parce que c'est sans doute un plus. Moi, je le vis comme un plus.
Non, mais vous percevez une réalité des deux côtés.
C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à... je vois bien certaines prises de position, mais par exemple, la notion de maire bâtisseur, couplons-la aussi, allons jusqu'au bout et couplons-la avec un certain nombre de dotations aux collectivités locales qui sont plus ou moins importantes, voire peut-être un peu sanctionnées de temps en temps si on voit que la politique de l'habitat qui doit être contractualisée, je suis d'accord, je suis assez sceptique pour être élu local sur les contrats locaux parce qu'on les a on les met à toutes les sauces.
On en parlera tout à l'heure.
Mais s'il y a un programme local de l'habitat puissant, s'il y a des élus qui s'accaparent de façon très puissante la question du logement, qu'une matière un peu compliqué quand vous débarquez en tant qu'élu.
C'est clair.
Reconnaissons-le. Donc il faut un peu de temps pour s'accaparer. Derrière tout ça, les engagements sont respectés, les conséquences soient accompagnées financièrement, ça me semble légitime, et les conditions qu'on aille aussi jusqu'au bout. Il y a des dotations, je ne vais pas entrer dans le détail, mais la DSIL par exemple, ou des choses comme ça, peuvent être couplées complètement à la dynamique du territoire, ou en tout cas au respect des engagements qui figurent dans les plans locaux de l'habitat. Et je pense que la question des PLH aujourd'hui, elle doit être questionnée. Il y a des endroits où il n'y en a pas encore aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui est obligatoire. Il y a des endroits où il n'y en a pas, c'est pas normal.
Alors,
donc essayons de
PLH. Pour nos
programme
auditeurs.
Local de l'habitat, c'est l'intercommunalité,
c'est l'outil
qui définit sa stratégie.
Absolument.
Et à partir de là, après, il y a les règles d'urbanisme, mais en tout cas, c'est la stratégie et la logique pour qu'il soit, il doit être approuvé et validé par les services de l'État. Et bien évidemment, il faut qu'il soit mis en cohérence. Et c'est là où tout ce qu'a évoqué Michel Nogal prend toute son importance. C'est cette notion de décentralisation. C'est que la plupart du temps, la dynamique logement ou la dynamique de besoin de logement, elle est couplée à la dynamique économique du territoire. Et moi, je suis content d'entendre, j'ai noté, parce que je voulais être sûr, détendu, tendu, c'est des termes qu'il faut bannir aujourd'hui. Pendant très longtemps, quand on évoquait des marchés détendus,
donc, voilà.
On avait l'impression que c'est des marchés sur lesquels il ne se passait rien.
D'accord.
Faux.
Oui.
Il y a des besoins qui sont différents,
bien
mais
sûr.
Il y a des besoins. Et mais notamment, on a souvent oublié...
Est-ce que vous êtes pour la suppression du zoning ?
Du zonage ?
Oui.
Complètement pour la suppression du zonage, à condition que ça s'accompagne...
Parce que ce qui a amené la notion de tendu, détendu, c'est le principe de la zone. Hein.
Oui, mais le problème du détendu, c'est qu'on a considéré que ces endroits où il n'y avait pas de besoin de construction de logements neufs.
Mmh.
Résultat des courses. Un, on nommait... On oublie de se concentrer sur le parc ancien, ce qui a été corrigé quand même depuis, avec ma prime Rénov, avec tout un tas d'actions, et c'est tant mieux, et on s'en félicite.
Et le plan d'action Cœur de Ville aussi.
Plan d'action Cœur de Ville, initiative copropriété, il y a eu un certain nombre de choses autour du parc ancien, et c'est tant mieux.
Mmh.
Et puis, cette question du zonage, elle est quand même problématique, puisque vous avez un territoire qui va être zoné d'une certaine façon, la ville d'à côté qui va être zonée d'une autre façon, résultat des courses, l'investisseur qui lui regarde ce qu'il peut faire, ce qu'il peut est fiscalisé, ben, dans un coin, il peut le faire, dans le coin, un autre, il peut pas le faire. Il va plutôt là où il va pouvoir le faire. Résultat de tout ça, c'est qu'on a des territoires classés zone C, par exemple, c'est-à-dire non éligibles au Pinel. Michael a parlé d'expérimentation en Bretagne.
Abandonné.
Oui, mais par l'expérimentation en Bretagne, le secteur de Vitré, voilà. Territoire, par exemple, très dynamique en matière de développement économique, qui était exclu de tout ça, donc pas de projet. Et avec l'expérimentation qui a été faite, eh bien, on a revu, les promoteurs revenir, les investisseurs revenir. Donc, ce qui serait intéressant sur l'expérimentation Bretagne, c'est que maintenant, on la valide, entre guillemets, puisque, plutôt que de la poursuivre, et qu'on regarde comment ça peut
et
être
que ça s'étend au territoire.
Alors, j'ai bien conscience que ça nécessite des élus résistants et des élus forts sur la question du logement. Ce qui est encore un autre sujet, peut-être,
merci
qui mérite
pour
d'être travaillé.
Merci pour la transition, parce que c'est bien d'élus et donc de politique dont je voudrais qu'on parle précisément, avec vous, Michael Nogal, qui est avec nous. En plus, c'est emblématique. Vous êtes à l'Assemblée nationale, on ne peut pas rêver mieux. Je voudrais qu'on enchaîne sur le logement des Français et je vous pose la question suivante. À quelques mois de l'élection présidentielle, tous les acteurs du logement cherchent à en faire un thème de campagne. Logique. Promoteurs, constructeurs, aménageurs, réseaux de distribution aussi. Century 21, La Forêt, Foncia, tous les grands distributeurs de produits qui, je le rappelle quand même, loge l'équivalent de en pourcentage de 2/3 des Français qui pourraient être éligibles au logement social. C'est, voilà, juste pour expliquer l'importance du parc privé dans cette notion. Vous avez rappelé Yannick Borde qu'en 2006, bon, on va dire c'est Nicolas Sarkozy, qui parlait d'une république de propriétaires. Bon, et donc il partait d'un principe simple, c'est qu'on sera plus soigneux, quel que soit le mode de détention immobilière, si on est propriétaire de son propre bien. Et puis c'est aussi le phénomène de la retraite, du vieillissement, etc., etc. Qu'est-ce qui explique, Michael Nogal, le manque de visibilité d'une politique de logement, mais pas uniquement dans la campagne qui se prépare peut-être, mais dans la précédente campagne, celle sur laquelle vous étiez associé avec le parti de la majorité, avec Emmanuel Macron, mais aussi les précédentes. Pourquoi les candidats, ceux qui aujourd'hui ont un programme pour la France, sont absents, on a cette politique du logement. Je vais même aller plus loin. Est-ce qu'on attend d'avoir les gilets jaunes du logement pour se décider à avoir un vrai plan Marshall du logement en France ? Michael Le Gall.
Oui, plusieurs éléments de réponse. D'abord, le logement en tant que le logement apparaît peu dans les campagnes présidentielles en tant que sujet à part entière. Mais on le retrouve.
Vous êtes d'accord là-dessus ?
On le retrouve, oui, bien sûr, ça c'est partagé. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on retrouve le logement dans les ambitions sur la rénovation énergétique, dans la politique de la ville. Comment on fait en sorte que dans les quartiers les plus défavorisés de notre pays, on recrée justement l'ascenseur social, on fait en sorte que les gens vivent mieux dans ces quartiers. Je sais de quoi je parle, je suis élu dans le quartier du Mirail à Toulouse, qui cumule plusieurs difficultés, à la fois sur l'emploi, sur le logement, sur l'école. Et donc l'État traite, avec les collectivités évidemment, ces sujets de manière globale. Et donc la rénovation urbaine et le logement dans ces quartiers ne se pense pas que, justement, en pensant au logement, on pense insertion dans l'emploi, on pense sécurité, on pense école. Et donc, on ne parle pas de logement, mais l'intérêt, et je crois que ce qui doit tous nous animer, c'est est-ce que derrière, il y a des résultats. Et les résultats, quand je vois l'action de l'ANRU dans les quartiers politiques de la ville en France, eh bien oui, les résultats sont positifs. Après, il y a une autre explication, je crois, c'est le fait que le logement soit une compétence réellement partagé, peut-être même aujourd'hui plus dans les mains des collectivités locales. Yannick Borde rappelait tout à l'heure les différents outils dans les mains des intercommunalités et des collectivités. Aujourd'hui, il y a la sonnerie à l'Assemblée, vous voyez. C'est pour me rappeler pour aller en séance. Mais donc une compétence partagée qui fait que la seule volonté de l'État ne suffit pas à avoir du changement concret sur le terrain. D'où, je reparle de cette commission REPSAMEN, mais d'où le fait de mettre autour de la table des élus locaux, nationaux, des acteurs privés, vous les avez mentionnés Sylvain, et faire en sorte que, et le ministère et les administrations, à la fois le ministère du Logement, le ministère de l'Économie, pour arriver à trouver ces solutions communes. Je voudrais aussi rappeler un point important, et je crois que là c'est à la fois au niveau local comme national qu'on doit porter ce message, c'est qu'il faut dire à nos concitoyens que si on veut rendre le logement abordable demain, ça ne peut pas se faire sans construction nouvelle. La rénovation, et vous le savez, Sylvain, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai été rapporteur de la loi climat et résilience sur ce sujet. La rénovation est un sujet important, mais sans construction supplémentaire, on ne peut pas espérer maîtriser le prix des loyers, maîtriser le prix du foncier.
Bien sûr.
Derrière, c'est aussi les Français qui doivent accepter que des logements se construisent près de chez eux. Parce que il y a aussi, quand on est installé quelque part, on n'a pas envie que d'autres logements, des immeubles, viennent se construire près de chez soi. Donc j'allais dire, il y a un pacte républicain entre les citoyens, les administrations, les collectivités, les élus locaux et l'État, pour faire en sorte que demain, si on veut répondre aux besoins de chacun, vous mentionniez le fait que 7 à 8 Français sur 10 sont éligibles au logement social, eh bien, il faut pouvoir apporter des solutions à tout le monde, et alors, pas que dans le logement social.
Merci, Michael Nogal.
Oui. Je voudrais simplement aussi rappeler, et ça a été dit par Yannick tout à l'heure, pour moi, il y a des mesures que j'ai préconisées depuis déjà plusieurs mois auprès de la ministre Wargon, qui étaient notamment d'aider les élus locaux nouvellement élus à acquérir de l'expertise sur les sujets de l'habitat et de l'urbanisme. Yannick Borde le disait tout à l'heure, c'est des sujets très complexes. Tous les élus locaux n'ont pas sa maîtrise, son expertise et son expérience sur le sujet. Et donc, moi, je préconise notamment que les services déconcentrés de l'État puissent, de manière volontaire, quand les élus ont besoin d'une remise à niveau, si je puis dire, que les services déconcentrés puissent accompagner ces élus locaux. Parce que quand un promoteur vient vous voir, ou quand vous prenez la responsabilité de ces sujets, et que, par exemple, vous êtes dans une commune carencée en termes de logement social, vous dites, mais par quel bout je dois prendre le sujet, et comment je vais faire en sorte de me remettre dans la légalité, parce que je rappelle qu'il y a une loi SRU depuis les années 2000 qui oblige les collectivités à construire du logement social, une belle loi d'ailleurs
on va revenir dessus, excusez-moi, je vous coupe, Michael Nogal, parce qu'il y a des sujets sur lesquels je veux absolument qu'on discute. On reviendra sur ces éléments, c'est fondamental, notamment on avait compté 769 communes carencées l'an dernier. C'est vraiment un sujet en tant que tel. Une réaction, Yannick Borde, vous ne faites pas partie du parti de la majorité?
Je ne fais pas partie du parti de la majorité, non, on peut pas me reconnaître ça. Je suis pas très loin, mais j'en fais pas partie.
D'accord.
Pour être très clair,
je m'adresse à un élu, je m'adresse aussi à un homme politique.
Oui, oui.
Pourquoi Yannick Borde y a-t-il une absence d'une vraie politique du logement? Alors, je peux comprendre ce que dit Michael Nogal. On en parle sous-jacent dans la rénovation énergétique, dans la culture, l'éducation, etc. Pourquoi on fait pas un bloc? Moi, je serais un candidat. Je fais un bloc. Et je dis un logement pour tous. Voilà. Simple, c'est audible, c'est visible.
Nous, on rêve de ça, effectivement. Maintenant, j'entends ce que dit Michael Nogal sur le fait que le logement, on le retrouve aussi en transversal sur pas mal de sujets.
C'est certain. Ce qui est juste.
Moi, je me rappelle de la campagne de 95 qui date un peu, où il y a eu ce démarrage sur la création du prêt à taux zéro. Je me rappelle d'autant mieux que c'est un de mes prédécesseurs à la présidence du réseau qui avait lancé ça, Pierre-André Périssol, et qui avait été quand même un marqueur de la campagne assez fort à l'époque. Et je crois qu'il faut aujourd'hui que l'on...
Et qui a fait un succès considérable.
Et qui a fait un succès, qui, 26 ans plus tard, est toujours là comme dispositif, ce qui est assez rare quand même,
oui,
dans dispositif logement. Donc, je pense qu'il faut remettre aujourd'hui, politiquement, le logement comme étant, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, l'emploi et la santé, les trois domaines qui sont aujourd'hui vitaux pour l'ensemble de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand il y en a un des trois qui flanche, c'est plus compliqué.
Yannick Borde, vous êtes maire de Saint-Berthevin, vous êtes aussi, bien sûr, président de Procivis, donc vous êtes, en tant qu'homme politique attaché à un parti, on peut le dire lequel ou pas ?
Non, je suis qualifié divers droite, je suis pas adhérent à un parti. Voilà.
Divers droite, vous êtes d'accord que si un candidat disait, voilà, j'ai un bloc programme, vous savez, comme un bloc de compétences, j'ai un bloc programme qui s'appelle le logement pour tous les Français, ça vous irait ?
Ça m'irait, je pense que ça parlerait
aux
gens, ça parlerait aux élus.
Donc vous préféreriez que ce soit annoncé comme ça plutôt que ce soit transverse ?
Oui, parce que transverse, en fin de compte, j'entends bien qu'on le retrouve sur la précarité, sur le domaine énergétique, sur la question de l'environnement, sur la question du champ social.
D'accord.
On va le retrouver sur la question économique avec la construction. On va le retrouver dans plusieurs domaines. Mais je pense que c'est quand même aujourd'hui une préoccupation forte. Et aujourd'hui, on est quand même devant une crise de l'offre, une demande très forte qu'on a, je ne sais pas si on a connu déjà dans notre dynamique passée, à la fois une crise de l'offre neuf et une crise de l'offre ancien. On a l'impression depuis quelques mois que les problèmes de logement, ils sont absolument partout.
Les chiffres sont dramatiquement bas en construction neuve, parce que pour remonter à un tel niveau de baisse de stock, il faut remonter il y a plus de 30 ans. Quand
voilà.
Faut juste rappeler que c'est une bérésinée absolument de l'octroi des permis de construire. Maintenant, on peut trouver des causes, bien évidemment, parce qu'il n'a échappé à personne qu'il y avait une crise sanitaire qui était passée par là. Je voudrais qu'on enchaîne sur le programme, parce que je voudrais vraiment examiner tous les points. Michaël Nogal, les candidats à la présidence de la République, Dieu sait qu'il y en a un qui s'annonce tous les jours, quoi, à peu près, grosso modo, donc ça va être une sportif comme élection. Les candidats chercheront à parler aux jeunes. Aux jeunes, vous êtes jeunes, vous aussi. En plus, vous incarnez. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Michaël Nogal, c'est qu'il incarne vraiment cette politique dont on voudrait qu'elle soit. Tout le monde sait que je vous apprécie, bien sûr. Mais quand même, les candidats chercheront à parler aux jeunes qui votent peu ou pas du tout. Et pire que ça, ils argumentent même sur le fait de ne pas voter. Parce qu'on pourrait dire, à la limite, allez, je m'en tape, je vote pas, d'accord ? Non, on a carrément des jeunes qui disent, c'est pas que je vote pas et ça sert à rien de voter. Ce qui est pire, hein, d'accord ? Mais alors, question, ces jeunes souffrent de façon dramatique, notamment sur le logement étudiant et le premier logement en tant que jeune travailleur. Et vous en savez quelque chose parce que vous avez été soumis à cette difficulté grave d'aller dans une métropole et de pas trouver de quand on a un premier job ou quand on trouve une école, de pas pouvoir se loger. Et tout le monde n'a pas des parents qui peuvent se porter garant, acheter un pied-à-terre pour leur enfant. Quel est le sentiment, vous qui êtes dans le camp de la majorité, qu'est-ce qu'on leur dit aux jeunes pour les loger dans des logements dignes et pas dans des chambres qui font 9 mètres carrés, 8 mètres carrés, où c'est absolument impossible de vivre en zone urbaine?
D'abord, une règle générale et un principe pour moi sur lequel je me bats, c'est que ce n'est pas le statut d'une personne qui doit faire sa capacité à évoluer dans la vie. C'est-à-dire qu'un jeune qui commence en CDD, qui se déplace pour un stage quelque part en France, a besoin de se loger en colocation, dans le logement social ou dans le logement privé. Peu importe, on doit apporter là aussi des solutions à tout le monde. Et une des mesures phares, un des dispositifs phares qui existe aujourd'hui pour faciliter justement l'accès au logement, c'est le dispositif VISAL qui avait été créé en 2016 et qui a été amélioré depuis, notamment grâce au travail des différents ministres du Logement et d'Action Logement, pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de jeunes, je rappelle aujourd'hui, VISAL, c'est une garantie locative qui permet à tous les jeunes de moins de 30 ans, sans condition, donc que l'on soit apprenti, étudiant, jeune actif, peu importe, on a la possibilité d'être couvert grâce à ce dispositif d'action logement.
C'est le fameux garant pour un loyer avec un administrateur de biens quand on veut un appartement, etc. Mais je voudrais qu'on creuse parce que c'est vraiment un sujet. VISAL, c'est super, parce qu'en plus c'est un service qui est gratuit, hein, on peut solliciter VISAL, on peut avoir. Seul problème, c'est que pour avoir la garantie VISAL, encore faut-il entrer dans le cadre du scoring des garanties de loyers payés propres aux administrateurs de biens. Vous voyez ce que je veux dire ?
VISAL s'applique y compris pour de la location de particuliers
à
particuliers.
Oui, mais par rapport au niveau de revenu, si vous voulez, par rapport au niveau de revenu.
Mais l'avantage même pour les administrateurs de biens, c'est que, y compris, si on parle de situation d'impayé, y compris la situation d'impayé, ce n'est pas l'administrateur de biens qui le gère, mais c'est Action Logement Service qui gère pour le compte du...
Je suis d'accord, mais à l'entrée...
On essaie de faciliter les choses, rendre les choses les plus simples possibles, à la fois pour le propriétaire. Moi, j'ai parlé avec des propriétaires et des locataires pour ces dernières années, on améliore justement ce dispositif. Au départ, on nous disait des délais de traitement qui étaient un peu trop longs. Les délais ont été raccourcis. Oui. Le portail web de VISAL, il a été aussi simplifié. Aujourd'hui, en 48 heures maximum, un locataire obtient son visa et
alors
peut se présenter
n'importe
quel propriétaire pour dire « je suis couvert par cette garantie et vous n'avez donc rien à craindre concernant… »
Michaël Nogal, je vous cite un cas. Je vous cite un cas, si vous permettez, c'est important. En fait, effectivement, en moins de 2 jours, il avait un accord VISAL. Un jeune qui a eu un accord VISAL. Ça a très bien fonctionné, pas de problème. Mais l'administrateur de biens sur lequel il est, l'appartement qui était en question, lui répond que malgré la garantie VISAL, le reste à vivre, vous savez, le reste à vivre pour le paiement du loyer n'était pas suffisant. Donc en fait, ce n'est pas Visal qui était concerné, mais c'était très bien qu'ils aient Visal. Mais c'était, vous comprenez la difficulté, c'est qu'en fait, le reste à vivre était que de 40%, ce qui s'est fait, donc ça veut dire qu'il y avait un taux d'effort de plus de 50%, et donc le dossier était rejeté, malgré l'octroi d'une garantie Visal.
Mais oui, Visal regarde aussi, c'est vrai, les taux d'effort.
Alors justement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que c'est souvent le cas en zone urbaine tendue. Les loyers sont chers.
Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de réponse aujourd'hui. C'est-à-dire que Visal, c'est un outil parmi tout un ensemble d'outils qui a une vraie valeur, c'est-à-dire qui apporte des vraies réponses dans de très nombreux cas. Ce n'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, je pense que tant qu'on n'aura pas décongestionné l'offre, tant qu'on n'aura pas une offre de logement qui sera suffisamment dynamique, tant qu'on n'aura pas un peu de concurrence entre les bailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur tous les marchés? C'est que celui qui cherche un logement, c'est soit il prend au prix où il est, soit il se retrouve en difficulté. Donc, tant qu'on n'aura pas une offre de logement qui deviendra...
Ou alors il va vers du co-living qui coûte quand même
très cher. Oui, alors après, il y a d'autres formules, toutes les formules, c'est des formules, c'est comme Visal, co-living, le logement des jeunes salariés partagés, etc.
La coloc, tout simplement.
C'est des solutions, mais on voit bien qu'aujourd'hui, le problème, il est plus grave que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, la solution un peu explosive, l'écart qui se creuse entre l'offre et la demande. Tant qu'on n'aura pas quelque chose qui sera très proche et sur lequel l'appartement qui est insalubre, qui fait 9 mètres carrés, il sait parce qu'il y a une offre suffisante sur le territoire qui sera pas louée, eh bien on sera dans ce contexte extrêmement difficile. Donc
d'autant
il faut
plus
vraiment travailler sur l'offre.
D'autant plus qu'il y a un DPE qui est devenu opposable, c'est-à-dire qu'en fait il y a une réglementation qui se met en place et on sait qu'à l'horizon de 2028 par exemple, on a l'équivalent d'1,7 million logements.
Oui, alors après c'est notre rôle, nous en tant qu'administrateur de biens, d'accompagner nos propriétaires.
Dans la rénovation.
Pour apparaître aujourd'hui un décrochage de DPE, ne soit pas.
Absolument. Alors pour parler de tous les sujets, Mickaël Nogal et Yannick Borne, j'aimerais qu'on aborde le sujet de cette apparente, je dis bien apparente, contradiction entre la peur de densification, d'accord, et la fin de l'artificialisation des sols. Voilà. Alors je sais que c'est la dent creuse, on en parle beaucoup ces derniers temps. Mickaël Nogal, la circulaire ZAN, donc zéro artificialisation nette. Il faut juste préciser que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'artificialisation du tout, mais il y a le principe de dire qu'il n'y a pas d'étalement urbain. Autant dire les choses comme elles sont. Question à l'homme politique que vous êtes, au parlementaire que vous êtes, Mickaël Nogal. On fait comment pour loger les Français face à cette contradiction?
On revient à ce que j'indiquais tout à l'heure, à savoir la contractualisation et le fait de faire le sur-mesure. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est du sur-mesure. Par exemple, je vais prendre mon département de la Haute-Garonne. Vous avez des départements, et on en revient toujours au sujet du zonage, mais vous avez des communes qui ne sont pas situées en zone B1. La métropole toulousaine est située en zone B1. Vous avez des communes qui n'y sont pas, mais qui pourtant ont une attractivité, ont des entreprises qui viennent s'implanter, donc derrière, des besoins en logement qui n'ont pas été cartographiés par le passé. Je rappelle que le zonage initié par Sylvia Pinel date de 2014 et qui n'a été revu qu'à la marge. Et donc aujourd'hui, en 7 ans, les besoins ont beaucoup, beaucoup évolué et les dynamiques sur les territoires, notamment aidées par les plans actions cœur de ville ou petites villes de demain, tout ça, ça évolue. Donc il faut pouvoir adapter. Et qui de mieux que les élus locaux, en lien toujours avec l'État, évidemment, hein, il ne s'agit pas de créer des républiques autonomes dans les régions, mais simplement s'adapter au niveau des territoires, et y compris à l'échelle d'une même intercommunalité, vous allez avoir des besoins qui ne sont pas les mêmes partout. Et donc, moi, je suis favorable à ce que l'on puisse densifier dans certains endroits. On est aussi capable de faire de l'habitat individuel assez dense et agréable dans certains endroits. Donc, il faut pouvoir adapter. Moi, je crois que le maître mot, c'est ça, c'est l'adaptation en fonction des besoins des territoires. Mais ça remet aussi la question de l'acceptation de l'acte de construire, parce que on peut dire les maires ne veulent pas construire pour X ou Y raison. Il y en a, c'est pour des raisons politiques, mais beaucoup pour des raisons notamment financières. Et là aussi, la commission Rapsamen formulera des propositions. Mais il faut derrière que les Français acceptent cette densification et que l'on soit élus et puis professionnels du secteur en mesure de leur proposer une densification et des vies agréables demain. Voilà. C'est-à-dire que plus haut, ça ne veut pas dire moins beau, un logement moins beau, ça veut dire simplement qu'il nous faut maîtriser. Et je crois que l'actualité, elle nous ramène aussi à notre devoir. Il y a une urgence climatique qui s'impose à nous tous. Si on continue à artificialiser comme on le fait avec le rythme de ces dernières décennies, on court vers des catastrophes naturelles qui vont se multiplier. Elles sont déjà assez nombreuses. Évitons et maîtrisons le développement pour qu'il se fasse en harmonie et pour le bien de nos concitoyens. C'est pour leur bien que l'on pense la densification.
Alors, je comprends. Merci pour cette réponse. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le principe. Effectivement, ce principe qui est de dire que les actifs immobiliers sont des actifs hétérogènes par nature et qu'il faudrait spécifiquement adapter selon les zones, ça paraît du bon sens. On est d'accord là-dessus?
Oui, complètement. Moi, je me retrouve. Et oui. Alors, d'abord, je suis très, très satisfait d'entendre Michael évoquer la question du zonage et l'exemple qu'il donne, c'est celui que nous on donne depuis.
Il dit clairement, je suis favorable à la suppression du zonage.
Voilà, ça se travaille, ça s'affine. C'est pas, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'on fait.
Et je suis pragmatique, territoire par territoire.
Mais sur lequel il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour ce qui était une aberration qui est un peu ancienne aujourd'hui. C'est pas le gouvernement actuel.
Non, mais ça a été valable à une époque, et ça l'est plus.
Ça a correspondu à une époque, à un besoin. Aujourd'hui, il faut revoir cette partie-là. Sur la question de l'étalement urbain et de la densité, les acteurs du logement, comme les élus, je pense, sur la partie zéro artificialisation nette des terres, on est tous d'accord. Aujourd'hui, on voit bien que consommer les terres agricoles, ça pose quand même des vraies questions.
Bien sûr.
Quand on est élu local, on se rend compte quand même que d'étaler sa ville, ça aussi un vrai coup derrière, donc faut l'assumer.
Il faut donc accepter l'idée de la hauteur.
Il faut accepter l'idée de la verticalité, il faut la faire accepter, on n'a pas le choix.
Pas évident,
et là, le public, comme les élus, sont très réticents.
À Saint-Berthevin, c'est pas évident quand même.
Ouais, mais à Saint-Berthevin.
J'y suis passé cet été, justement.
Très bien, vous auriez dû me prévenir, on se serait vu.
Ah oui, avec grand plaisir.
Mais à Saint-Berthevin, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'immeuble, c'est que pavillonnaire. Ah, aujourd'hui, oui. On fait du R+3, alors peut-être qu'on pourrait faire un peu plus, mais au moins du R+3. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui a été créé dans le cadre du plan de que nous, sur lequel on a communiqué en disant que c'était quelque chose d'intéressant qu'il fallait sanctuariser. Je pense que c'est un peu prévu dans la commission Rebsamen, c'est les fonds friches.
Oui.
On voit bien que l'une des questions de retrouver du foncier et de reconquérir la ville, ça vaut pour le secteur des zones d'activité comme pour le secteur des secteurs de l'habitat. C'est-à-dire la question aujourd'hui de reconquérir ces espaces-là est nécessaire. Or, c'est très compliqué, or c'est très coûteux. Moi, je trouve légitime que le propriétaire subisse un impact de ce surcoût. Peut-être qu'il faudra, quitte à ce que ce soit un arbitrage au détriment d'autres dispositifs budgétaires. Mais c'est certainement quelque chose qu'il va falloir travailler, affiner et privilégier.
Alors justement, c'est la troisième et dernière partie de notre mission. Et merci encore une fois de la densité des arguments et des échanges. Commission Rebsamen. Voilà, commission Rebsamen. Je vous fais le pitch. Dans un contexte tendu suite à la forte baisse de construction de logements neufs, je rappelle simplement quelques chiffres. 380 000 logements ont été autorisés au cours des 12 derniers mois contre 457 000 logements autorisés en décembre 2020 et près de 500 000 au début du quinquennat Macron. La chute est quand même vertigineuse. C'est toute la chaîne de construction qui se trouve aujourd'hui en repli, pour ne pas dire en grave difficulté. Une chute très problématique dans les zones tendues comme l'Île-de-France et les grandes métropoles, mais on peut dire que c'est presque endémique. Mais quand même, il faut le souligner. Présidé par François Rebsamen, maire de Dijon, et annoncé par le Premier ministre et la ministre déléguée au logement Emmanuel Wargon le 17 mai dernier, une commission pour la relance durable de la construction de logements va bientôt être rendu, c'est le cas, puisque Michael Nogal, vous êtes actuellement au Palais Bourbon, justement, où vous avez siégé, et ce sera rendu, les premières annonces seront faites demain. Voilà. Première proposition annoncée le 20 juillet dernier par la Commission pour lever les freins à la construction de logements, apporter des soutiens financiers aux maires bâtisseurs, avec notamment les financements publics. La Commission propose un contrat local qui lie le préfet aux élus pour définir quels sont les logements, quels types de logements sont nécessaires, dans quel secteur et avec quel type de moyens. Le fonds friche, dont vous avez parlé, effectivement, on va en reparler, c'est un sujet important, créé dans le cadre du plan France Relance, notamment fléché sur les zones bien sûr tendues. Commission propose également la relance de la mobilisation du foncier public pour la construction de logements sociaux, qui était au point mort après le plan du même nom lancé en 2014 par Cécile Duflot, il faut quand même le rappeler. Et enfin, ces notions multiples, je les conclurai sur, et ça nous donne le ton de cette dernière partie, avec un peu d'amertume, si vous permettez, parce que je me pose vraiment la question, et j'aimerais d'abord avoir votre point de vue, et ensuite celui de Michaël Nogal, c'est pourquoi, après 4 ans et demi de mandature, le président de la République décide, avec le gouvernement exécutif, Jean Castex et Emmanuel Wargon, de décider seulement maintenant de faire une espèce de commission pour pouvoir essayer de relancer le logement en France. Le problème était déjà présent il y a un an et demi, il y a deux ans. On voyait bien les chiffres décroître. Oui. Pourquoi à 6 mois de la présidentielle? Est-ce que c'est pas une espèce de bœuf qui va accoucher d'une grenouille?
En tout cas, le débat, il existe et il sera pas perdu. Je pense qu'on pourra toujours se servir d'un certain nombre de choses. Pourquoi maintenant, moi,
excusez-moi, Yannick, c'est pas le sens de ma question. La question où je m'adresse aux politiques, pourquoi 6 mois avant l'élection présidentielle, avec des mesures qui peut-être ne figureront pas dans le PLF de 2022?
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui figurera dans le PLF de 2022.
Merci de votre réponse.
Enfin, Michael pourra peut-être me contredire et nous apporter des précisions. Ce qui est certain,
c'est tard ou...
Oui, mais ce qu'il faut... je vais plutôt prendre une casquette professionnelle. Je sais que si vous voulez m'emmener sur ma casquette d'élu, mais je vais prendre ma casquette professionnelle. Je pense que tout d'abord, les chiffres depuis... ils n'ont jamais été très bons dans ce mandat. Ils ont toujours été décroissants. Et donc, ça s'est accéléré. La crise sanitaire est arrivée par là, etc. La crise sanitaire, elle re-questionne aussi beaucoup de choses sur l'attente des Français par rapport au logement. Donc, c'est pas choquant que, à ce moment de la situation, il y ait ces questions-là. Les élections municipales sont passées par là. Donc, on a quand même subi tout un tas d'éléments qui fait que beaucoup de choses sont re-questionnées. Les modèles sont en train de se re-questionner aujourd'hui. Okay. Les montages d'opérations par les promoteurs.
Vous n'êtes pas étonné qu'une commission se mette en place là?
On peut toujours soupçonner d'accord. par rapport au calendrier, mais ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, d'accord. c'est de se dire, est-ce qu'on est en train de créer un choc de l'offre à quelques mois d'une présidentielle? Je pense pas que ce soit nécessairement facile. Mais est-ce qu'on est en train de prendre des mesures et d'actionner des mesures qui vont permettre, un, aux élus qui souhaitent accélérer, pouvoir le faire. Deux, aux opérateurs que nous sommes, pouvoir s'engouffrer dans les opérations et pouvoir accompagner les élus, parce que ce n'est que ça, notre métier. Il y a encore des points de frottement, on va dire, sur les mesures. Je vais citer, moi, deux ou trois exemples. Le premier, c'est que je pense qu'on n'échappera pas à une réforme et à un gros questionnement complet de la fiscalité locale. Je pense qu'elle a été... Alors, là, je vais être en désaccord avec Michaël Nogal, mais c'est aussi le but de ces échanges. Moi, je suis un farouche opposant à l'exonération de la taxe d'habitation, depuis le début.
Comme beaucoup d'élus locaux.
Comme élu, mais aussi comme opérateur. Donc, parce que, d'abord, ça a cassé la dynamique fiscale des territoires. Je comprends l'action, le message social. Je comprends le message par rapport à ça. Je rappelle quand même qu'il n'y a que la moitié des Français qui payaient la taxe d'habitation avant l'exonération, et que ça a cassé une espèce de maîtrise sur les territoires. Et ça reporte sur une autre taxe qui est la taxe foncière, un certain nombre, la richesse fiscale, on va dire, des collectivités locales. Moi qui suis aussi élu, depuis 12 mois, on prend des délibérations quasiment tous les mois pour ajuster nos taux entre le bout du département qui nous revient, le bout qu'on perd et qui part ailleurs.
Vous voulez dire que l'abandon de la taxe d'habitation peut faire exploser la taxe foncière?
Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
C'est ça que vous voyez?
Le risque, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire exploser.
Alors, c'est enlevé dans la poche de gauche pour mettre dans la poche de droite.
Ouais, c'est peut-être ça. En tout cas, pas en totalité, mais pour partie. On le voit dans beaucoup de communes.
Je me mets à la place de celui qui paye aujourd'hui une taxe d'habitation et une taxe foncière parce que je suis propriétaire de ma maison. Effectivement, ça, je l'entends très bien.
Et puis, je rappelle quand même que la taxe foncière, elle est aussi supportée par le monde économique. Donc, attention à ce jeu-là. Moi, je suis bien d'une commune. Vous pourrez vérifier. Ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que la dynamique fiscale pour un élu, elle est quand même très couplée à la construction, que ce soit économique ou habitat. Et effectivement, à partir du moment où elle est freinée, où elle est contrariée, moi je comprends cette réticence-là. Je pense que c'est pas nécessairement tout à fait un bon calcul de la part des élus, mais je la comprends. Donc la question de la réforme fiscale, on n'y échappera pas. Et puis l'autre élément qui est un peu, excusez-moi du terme, un peu tarte à la crème, vous avez parlé de la commission Duflot, c'est le foncier public. Le foncier public, sa mobilisation, elle est très compliquée. Je pense que tous les élus tous les élus locaux le souhaitent. Le plus grand, la grande réticence, elle est au niveau de l'État. Et aujourd'hui, quand une collectivité ou un État ou l'État lance un appel à projet sur un de ses fonciers, ça ne participe absolument pas à la maîtrise de la charge foncière. Ils vont au plus offrant. Voilà, donc on est dans une espèce de spirale où à un moment donné, il va falloir se dire les choses. Quoi.
Attendez, Yannick.
Mais je comprends aussi l'État quand il vend son patrimoine.
Vous êtes en train de me dire que l'État, sur son foncier public, agit comme un broker.
Il agit comme un propriétaire
bonjour 40, au revoir 60.
Qui a aussi l'obligation de gérer son patrimoine. Donc moi, je suis pas très optimiste sur cette partie-là.
Vous seriez favorable à ce que l'État dise, puisque ce foncier est public et que vous êtes un élu local, vous avez quelque part...
Travailler ensemble, une solution.
On travaille ensemble et du coup, on a un peu ce qu'a fait d'ailleurs le ministère des Armées avec cette formidable initiative de mini-ville, vous savez, à côté de Reims. Je trouve ça génial. Avec des initiatives. Vous seriez favorable à ça?
Oui, c'est intéressant. Qu'il faut trouver le foncier public, il ne peut pas se faire sans l'État et les collectivités locales ensemble.
Vous êtes quand même en train de dire que l'État se comporte comme un broker.
C'est pas une injure.
Mais écoutez, un propriétaire, qu'est-ce qu'il cherche à faire?
En tant que contribuable, on peut aussi
attirer le meilleur parti de ces terrains.
Mais aujourd'hui,
l'élu local, lui, il a cette difficulté qui est de loger ses administrés.
Je pense qu'aujourd'hui, on a deux sujets majeurs sur lequel il faut qu'on travaille. Il n'y a pas de solution unique. Un, c'est comment est-ce qu'on arrive à dynamiser l'offre, à construire plus. Et ça, c'est pas parti pour dans les mois à venir quand même. Il y a plein de freins aujourd'hui pour construire plus. Et comment on arrive à faire en sorte que la construction nouvelle... Je ne sais pas si on est capable de faire baisser les coûts de construction, j'en doute. Mais en tout cas, qu'on est capable d'arrêter les hausses que l'on subit. Quoi.
C'est clair.
Et les mesures, il y a un certain nombre de choses qui
Parlez-nous du fonds friche, trouvez plutôt positif.
Alors le fonds friche, moi je trouve que c'est une très très belle idée.
Vous y êtes favorable.
J'y suis très favorable. Le réseau a envoyé cette proposition à la commissaire Ebsamen. Celle-ci en fait partie. Il a envoyé aussi la suppression du zonage.
C'est quoi le fonds friche?
Le fonds friche, c'est tout simplement de se dire, il y a un espace de reconquête à avoir sur un terrain qui aujourd'hui destiné à une autre destination sur lequel il ne se passe plus rien, mais sur lequel il y a un bâti, il y a une histoire, il y a quoi que ce soit. Donc ça peut être la grande usine.
Non, mais ça peut être un vieux centre commercial en déshérence.
Ça peut être un vieux centre commercial, ça peut
être parking,
le petit garage dans une ville mais qui est polluée parce qu'il y a le récupérateur d'huile des années 60 qui ne fonctionnait pas tout à fait comme aujourd'hui.
Ouais.
Et donc il y a un sujet coût d'émolition souvent très élevé, il y a un sujet éventuellement des pollutions qui peut être aussi dissuasif.
Et d'assainissement des sols.
On a tous des exemples en promotion immobilière. Quand vous voyez le propriétaire arriver avec son bien à vendre et vous lui enlevez le coût de la démolition et le coût de la dépollution, en général, il ne reste pas grand-chose. Donc moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre en charge tout ça. Je suis tout simplement en train de dire qu'il est normal que le propriétaire subisse un impact financier compte tenu de la valeur de son bien finalement. Mais en même temps, il y a peut-être un accompagnement public à amener pour que l'opération se fasse. Sachant que c'est aussi... pas d'un claquement de doigts qu'on sort un dossier avec un fonds friche, parce que notamment la question de la dépollution est une question assez longue dans la durée.
Il serait doté comment, ce fonds?
Aujourd'hui, il a été doté sous le contrôle de monsieur le député. Je crois qu'il y a 300 millions qui ont été mis dans le fonds friche dans le cadre du plan de relance. C'est quelque chose qu'il faut essayer de sanctuariser. Et moi, ce que je souhaiterais aussi, puisque la culture du réseau, sans doute un peu imprégnée de son président qui a une fonction d'élu, c'est de dire on réclame pas des fonds publics supplémentaires. Donc on se met autour de la table sur les fonds publics qui sont consacrés au logement, on réarbitre, il y a peut-être à consacrer un peu sur le fonds friche, et sur quoi on peut peut-être trouver des efforts. Moi je pense que sur la question de la défiscalisation, on peut trouver quelque chose.
Pour rester dans
l'enveloppe budgétaire et pas aller réclamer plus d'argent public.
Sur le contrat qui lie le préfet aux élus, vous êtes favorable ou pas?
Sur un contrat qui lie le préfet aux élus, je vais prendre ma casquette d'élu, on en signe beaucoup des contrats locaux sur tout un tas de sujets. J'aimerais bien qu'ils soient un peu challengés pour vérifier s'ils ont une réelle attractivité, un réel effet. Donc je demande à voir et il faut que tout le monde ait... il faut d'abord qu'on partage quand même tous ensemble le contexte local. Et ça, il y a encore du chemin à faire avec les préfets.
Vous avez sollicité effectivement la réponse d'un parlementaire, monsieur le député Miguel Nogal, qui est avec nous, qui va répondre à votre question.
Oui, et je m'excuse par avance parce que je devrais vous laisser, je voudrais bien continuer.
Je vous laisse la parole avant que vous partiez.
J'ai à échanger avec lui, avec les équipes de Procivis. D'abord, Sylvain a rappelé que certes, il y a une commission Rebsamen qui se réunit en ce moment, mais qu'on n'a pas attendu la dernière année de mandat pour concerter. On s'était déjà rencontrés à l'époque de la loi Elan avec Yannick. Je rappelle qu'il y avait une conférence de consensus qui avait lieu au Sénat, qui réunissait à la fois tous les parlementaires impliqués sur la loi et puis l'ensemble des acteurs qui étaient aussi mobilisés, que ce soit les bailleurs sociaux, mais l'ensemble des opérateurs et l'ensemble des associations représentatifs des locataires, des propriétaires, des professionnels, bref. Ce travail, il continue et aujourd'hui, il est question face à une situation compliquée pour les élus locaux, compliquée pour les parlementaires que nous sommes. Je crois qu'on cherche tous à atteindre le même objectif, et le même objectif, c'est quoi ? C'est mieux loger les Français et faire en sorte que chacun ait une solution pour se loger. Je reviens sur la contractualisation, c'est un vœu des collectivités elles-mêmes et des élus locaux qui siègent en tout cas dans cette commission, faire en sorte que ce soit sur le fonds friche, que ce soit vraiment sur la construction. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Yannick tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, il faut éviter dans la loi le maximum de coercition. Quand des élus ne jouent pas le jeu, vraiment, en effet, on peut y venir. Mais moi, je suis plus dans une logique d'incitation et de bonification, c'est-à-dire notamment sur les dotations, que l'État aide plus ceux qui contribuent le plus à l'effort collectif. Le logement, c'est un effort collectif. Je comprends, moi, les problématiques auxquelles doivent faire face les maires au niveau local, mais je veux encourager ceux qui, justement, font plus pour produire plus de logements et pour, à la fin, faire en sorte que les Français se logent mieux. Du côté de l'État, il y a des dispositifs, par exemple, que l'on est en train de revoir, et notamment un sujet que connaît bien Yannick aussi, c'est l'exonération, la compensation, ou plutôt la non-compensation aujourd'hui, de l'exonération de TFPB sur le logement social. Eh bien, une des propositions de la commission REPSAMEN, qui fait consensus parmi tous les membres, c'est de dire il faut que cette compensation elle soit complète, elle soit intégrale. Parce que si on veut intéresser aussi les maires dans l'acte de construire, et en particulier du logement social, on a besoin de plus de logement social, mais pas que, il faut que, en termes fiscaux, la collectivité s'y retrouve. Et je note aussi le commentaire et l'avis de Yannick sur la taxe d'habitation. À l'époque, je veux rappeler aussi pourquoi on l'a fait parce que même si tous les Français n'étaient pas assujettis à cette taxe, c'était un impôt qu'on jugeait injuste. Alors j'entends le discours et la parole du maire qui voit dans la suppression de la taxe d'habitation un moindre, du coup, un manque de lien peut-être en termes de fiscalité entre les administrés et puis la fiscalité locale. La taxe d'habitation, c'était aussi le lien entre cette taxation auprès des particuliers et en même temps de l'argent réutilisé dans l'investissement local, dans la commune. Donc j'entends ce point-là et c'est pour ça que je retrouve Yannick Bord sur la nécessité de revoir plus globalement la fiscalité locale. Mais encore une fois, moi, quand on a voté la taxe d'habitation, on arrive à la fin de ce mandat, je suis fier d'avoir voté cette suppression de taxe d'habitation parce qu'on a redonné clairement du pouvoir d'achat aux Français, que en fonction des territoires et à l'intérieur même d'une ville comme Toulouse par exemple, la taxe d'habitation que vous payiez à l'époque n'était pas liée forcément j'allais dire au dynamisme d'un quartier, on était décorrélés de l'investissement pour le coup et ça n'avait plus tellement de lien. Donc on a fait ce choix de suppression et je crois que ça a participé d'un regain de pouvoir d'achat chez ces personnes et donc moi je trouve que c'est plutôt bénéfique.
Merci beaucoup Mickaël Nogal, je sais que vous êtes occupé donc je vais vous laisser aller à vos occupations. Merci, je rappelle que vous êtes député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, président du Conseil national de l'habitat, vice-président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée, mais aussi vous êtes très branché égalité homme-femme. Est-ce que vous vous souvenez un jour Mickaël Nogal que vous n'aviez pas pu venir sur un plateau, vous avez dit, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas un minimum de parité ou de présence féminine, je ne peux venir car je suis signature du collectif Jamais sans elle. Vous vous rappelez ?
Tout à fait, exactement.
Eh bien, nous, on l'a fait et on soutient absolument cette initiative. Bravo. Merci à vous, Nicolas.
Vous avez raison de le dire. Ce n'est pas dans tous les médias qu'on trouve cette écoute et cette envie aussi de faire évoluer les choses et je note que chez Radio Imo, on y tient.
Et vous avez raison parce que c'est très important qu'il y ait effectivement une présence féminine. Merci Mickaël Nogal, merci encore une fois de votre soutien et à très très vite bien sûr sur les antennes de Radio Imo. Yannick Bord, c'est le moment de conclure. Voilà, je voudrais vous laisser une petite minute pour conclure. Alors, on va pas faire de langue de bois. Bon, je comprends, vous êtes président de Procivis, faut que ça tourne, hein. Ben oui, et je peux comprendre. Vous avez aussi cette double casquette d'élu, etc. Quand vous écoutez Michael Nogal, est-ce que vous vous sentez rassuré? Franchement.
Alors d'abord, je pense pas avoir la réputation de faire de la langue de bois, donc.
D'accord.
Je suis à moitié rassuré. Je pense qu'il y a des choses qui sont prises en compte.
D'accord. Ça vous interpelle quand même, hein.
Oui, mais quand j'entends Michael Nogal, qui aujourd'hui, parmi les parlementaires, est quand même un parlementaire important sur la question du logement, se questionner sur le zonage, revenir sur des questions sur la densité. Voilà. Je pense qu'on peut progresser. Bon, maintenant, on est à 6 mois d'une élection présidentielle, 8 mois d'une élection présidentielle. On faut pas rêver, c'est-à-dire il va pas se passer grand-chose de concret dans les prochains mois, si ce n'est un phénomène d'annonce, ce qui est jamais nécessairement très bon pour le secteur du logement. Faut pas que ça soit non plus le concours l'épine des annonces sur le logement pour le mandat suivant. Mais en tout cas, il y a des prises en compte et de toute façon, on est rattrapé par la situation. C'est-à-dire, la situation aujourd'hui, elle est quoi? C'est une offre, une demande qui s'écarte de plus en plus, un marché qui devient sur beaucoup de territoires inaccessible pour les ménages. Une tension quasiment en ce moment, c'est sur la première réunion de la commission Habiter la France de demain, il y avait le maire de Nevers qui était présent, qui reconnaît que Nevers, c'est pas nécessairement, comme ça, du premier coup d'œil, un territoire qu'on qualifie de hyper dynamique sur le plan immobilier, sauf qu'aujourd'hui c'est difficile de se loger, les prix montent.
Absolument.
Voilà, c'est absolument partout. Donc c'est bien qu'on a des phénomènes qu'il va falloir arriver à contrer. Et moi, je pense que les dispositifs, on les a. Vous avez cité Visal, on a cité un certain nombre de choses. Ça marche, ces dispositifs-là. Mais le problème, c'est pas d'améliorer Visal. Le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire plus et à construire à un prix plus mesuré. Et là, on a une question autour des normes, on a une question autour de la densification, on a une question autour de la valeur du foncier public. Voilà, on a tout un tas de questions. On les connaît, les remèdes.
Et bien sûr, voilà, question... Donc, c'est celle d'abord et avant tout de pouvoir loger décemment tous les citoyens dans ce pays
dans des conditions financières dignes, acceptables,
c'est
et supportables.
Absolument. Et je suis ravi de vous l'entendre dire parce que c'est rassurant pour ceux qui nous écoutent et notamment pour les particuliers qui galèrent sévèrement effectivement pour trouver un logement décent. Merci beaucoup Yannick Borde. Je rappelle que vous êtes le président du réseau Procivis et accessoirement aussi maire de Saint-Berthevin en Mayenne. Très joli Saint-Berthevin. Je suis passé par là cet été. C'était très très sympa. Et on vous retrouve donc au congrès de l'USH où nous sommes avec Radio Immo sur le plateau. Justement, on a décidé d'être avec Procivis pour couvrir cet événement haut en couleur à l'aube d'une élection présidentielle qui va quand même donner des grands axes sur ce que vous espérez d'ailleurs avec vos collègues, une vraie politique du logement au centre de la préoccupation, car je le rappelle et c'est quand même incroyable de le rappeler que le logement, c'est le premier facteur d'inclusion sociale dans la cité, dans la métropole ou dans la ville moyenne. C'est important de le redire. Merci Yannick Borde.
Merci
aux équipes de Radio Immo. Merci aux équipes de Procivis aussi d'avoir co-contribué à l'élaboration de ce programme. On se retrouve au congrès. D'ici là, commentez, likez, partagez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Salut à tous.
En attendant le congrès HLM, en partenariat avec Procivis, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.